Le premier texte que notre frère nous a lu ce matin, c'était dans l'épître aux Hébreux. Dans l'épître, il dit que puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Ce verset, demeurer ferme dans la foi que nous professons, c'est aussi ce que l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Galate lorsqu'il leur dit dans Galates chapitre 5 à demeurer ferme. Il dit ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et donc lorsque nous avons vu cette première partie du chapitre 5 de Galates, nous étions donc encouragés à demeurer ferme dans cette liberté que nous a acquise notre Seigneur par son propre sang. Et l'apôtre Paul encourage donc ces chrétiens, donc nous encourage, le Seigneur nous encourage à demeurer ferme. Certains de ces chrétiens de Galates se sont laissés influencer par ces faux docteurs qui leur disaient que pour être véritablement chrétien, pour être véritablement sauvé, le chrétien d'origine païenne devait se faire circoncire. Et en suivant ces faux docteurs, ces chrétiens se sont détournés, c'est ce que l'apôtre Paul dit, ils se sont détournés de la vérité, ils se sont détournés de la simplicité de l'évangile pour passer à un autre évangile. Et l'apôtre Paul dit que c'est pas qu'il y a un autre évangile, mais si on se détourne de la foi comme elle a été transmise, on passe à un autre évangile. Un évangile qui annonce un salut qui n'est plus basé sur la grâce de Dieu seul, comme on a vu ce matin, la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mais un évangile basé sur les œuvres. Et ça, c'est pas l'évangile. Donc, et là, l'apôtre Paul encourage ces chrétiens de Galates à demeurer fermes. Et donc, il les met en garde aussi, parce qu'en suivant ces faux enseignements, certains peuvent se priver de la liberté en Christ pour revenir à une forme d'esclavage. Donc, une insistance là qui est portée pour dire à ces chrétiens, faites très 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 attention. Et dans les 12 premiers versets du chapitre 5, nous avons souligné ce point, nous avons dit que pour demeurer ferme dans la liberté que nous a acquise notre Seigneur, il était bon d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et dit par une foi agissante et par l'Esprit qui agit en nous, savoir qu'il faut continuer cette course chrétienne, puisque ces chrétiens qui étaient engagés se sont arrêtés. Il leur dit, mais vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Et chaque chrétien doit savoir qu'il est engagé dans cette course, et lorsqu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, il s'engage dans cette course, et il doit tout faire pour ne pas s'arrêter. Et il y avait aussi une part de souffrance que le chrétien doit être prêt à supporter à cause de sa foi. Alors j'aimerais vous inviter à lire ce passage qui se trouve donc dans la suite, hein, à partir du verset 13 de Galates, Galates chapitre 5, à partir du verset 13, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Dans ce passage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Saint-Esprit revient à plusieurs reprises et à 7 reprises particulièrement dans ces 14 versets que nous avons lus. Les versets 16, verset 18, verset 22 et verset 25. Et dans ce livre de l'épître de Paul aux Galates, il fait mention de l'Esprit de Dieu à plusieurs reprises. Au chapitre 3, il en fait mention 4 fois. Au chapitre 4, 2 fois. Au chapitre 5, comme on l'a vu. Et au chapitre 6, il y en a 2 fois. Au chapitre 3, il dit que c'est suite à la prédication de la foi que l'on reçoit l'Esprit et non pas par les œuvres de la loi, au verset 2. Toujours au chapitre 3, verset 3, il dit « On commence la vie chrétienne par l'Esprit et l'on doit finir par l'Esprit et non par la chair. » Donc, l'action, l'œuvre du Saint-Esprit est manifeste du début à la fin dans la vie chrétienne. C'est suite à la prédication de la foi que les personnes ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est en entendant la parole de Dieu que les personnes saisissent par la foi et mettent leur foi en Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Donc commence la vie chrétienne par l'Esprit et ils doivent terminer cette vie chrétienne jusqu'à la fin. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc jusqu'à la fin, c'est par l'Esprit qu'il doit continuer à vivre. Toujours au chapitre 3, verset 5, il dit que c'est Dieu qui accorde l'Esprit. Ce n'est pas suite à une action de l'homme. Et il y a des fausses doctrines qui veulent laisser penser que pour recevoir l'Esprit, il faut qu'il y ait une opération de l'homme. Non, c'est Dieu qui donne l'Esprit, qui accorde l'Esprit. Et que la réception de l'Esprit, il dit au verset 14 du chapitre 3, que la réception de l'Esprit est l'accomplissement en Jésus-Christ des promesses que Dieu a faites à Abraham. Dans le chapitre 4, au verset 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. » Et au verset 29, il dit aussi qu'il y a une opposition entre celui qui est né de la chair et celui qui est né de l'Esprit. Donc là, il prend l'exemple d'Isaac et d'Ismaël pour souligner cette différence et cette opposition qu'il peut y avoir. Il dit que les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc, nous allons revenir donc sur ce chapitre 5 où l'accent est vraiment mis sur l'œuvre du Saint-Esprit. Mais au chapitre 6, il dit au verset 8 que celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Mais ce qui va donc capter notre attention ce matin, donc dans ces passages que nous avons lus, nous voyons vraiment que l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit est mis en lumière dans ce passage. Et si nous voulons demeurer fermes dans la foi, si nous voulons demeurer fermes dans la liberté que Christ nous a acquise par son propre sang, l'apôtre Paul nous encourage à marcher selon l'Esprit. Et c'est là toute la clé de la vie chrétienne. Marcher selon l'Esprit. L'apôtre Paul met l'accent donc sur l'œuvre du Saint-Esprit et il commence cette partie, et c'est pas la première fois, par ce mot frère. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Donc il s'adresse particulièrement à ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Si vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus, c'est pas pour vous. En tout cas pour l'instant. Mais lorsque vous allez mettre votre foi en Jésus, vous allez vous approprier ces paroles-là. Il s'adresse à ses frères ou à ses sœurs en Christ. Et il les exhorte et il nous exhorte à marcher selon l'Esprit. Il dit pour ne pas obéir aux désirs de notre nature charnelle. Par conséquent, pour marcher selon l'esprit, le chrétien doit au préalable mettre donc sa foi en Jésus, et pour marcher selon l'esprit, le Saint-Esprit donc doit habiter dans cette personne. Donc on reçoit le Saint-Esprit au moment où on se tourne vers Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait dans au chapitre 4, verset 6, que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Dans Romains, chapitre 8, verset 9, il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc c'est là l'élément essentiel. Chacun doit se poser cette question. Ai-je l'Esprit de Dieu en moi? Là, nous avons pris la scène et le frère l'a souligné. Nous le disons chaque semaine que c'est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus et qui l'ont confessé en passant par les eaux du baptême. C'est qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et donc, on peut voir que beaucoup se sont levés, mais tous ne se sont pas levés. Peut-être que certains ne se sont pas levés parce que elles savent qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'elles règlent certaines choses, mais elles ont mis leur foi en Jésus, parce que comme le frère l'a dit, on peut un jour, un dimanche, dire voilà, je préfère ne pas prendre la scène, ça remet pas en cause la présence du Saint-Esprit en nous. Mais il y a aussi cette réalité que certains n'ont pas mis leur foi en Jésus et donc ne peuvent pas se lever. Et donc se poser cette question, voilà, mais est-ce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ? Est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Et si, comme je l'entends aujourd'hui, je veux marcher selon l'Esprit, mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, je peux pas marcher selon l'Esprit. Donc à chacun d'examiner son cœur devant le Seigneur. Marcher selon l'Esprit, donc c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui habite en nous pour progresser, pour avancer dans sa vie spirituelle, dans sa vie avec Dieu. Et la parole de Dieu nous atteste dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » C'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, il dit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit conservé, irrépréhensible. » Et il dit que c'est le Dieu de paix qui vous sanctifie lui-même, tout entier. Si donc quelqu'un se conserve pur, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc tous ces versets nous soulignent que Dieu, il veut notre sanctification. Il veut que nous soyons des vases d'honneur. Et pour cela, c'est lui-même qui nous sanctifie. C'est lui-même qui opère cette œuvre de sanctification en nous. C'est pas de notre propre capacité que nous pourrons le faire. Dieu est saint, je suis saint et vous serez saint. C'est ce que Dieu dit. Donc comment Dieu peut-il opérer cette œuvre de sanctification en nous? Eh bien, c'est par son esprit qu'il a placé en nous depuis le jour de notre conversion. Donc, ce que Dieu veut, il le met en œuvre et il nous donne son esprit pour pouvoir mettre en œuvre sa volonté. Au moment de notre conversion, nous avons donc été mis à part par Dieu et nous avons été mis à part pour Dieu. Et donc le croyant doit se séparer chaque jour de tout péché. Il doit se séparer de toute chose aussi qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le but étant de ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est ça qu'on appelle la sanctification pratique ou progressive. Donc, petit à petit, Dieu opère en nous des transformations, des changements, grâce à l'action de son esprit qui est en nous, pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. C'est là tout le sens de la vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18, il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » C'est par l'Esprit du Seigneur que nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Donc, cette transformation que Dieu veut opérer en nous n'est possible que si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, comme notre Seigneur Jésus lui-même, il était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il était sur la terre. Il fut conduit par le Saint-Esprit durant tout son ministère. Il fut même conduit, la Bible nous dit, dans le désert pour être tenté. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et donc, le Seigneur nous dit, « Moi, je suis venu sur cette terre, j'ai donné ma vie pour vous, mais je suis venu aussi pour vous montrer comment vivre. » Alors, le Seigneur Jésus lui-même, il était conduit par le Saint-Esprit. Et pour être transformé à l'image du Christ, le chrétien doit le vouloir. Est-ce que réellement vous voulez être transformé à l'image du Christ? Oui. Et il faut le vouloir. Parce que Dieu nous a créés, comme on l'avait vu la fois dernière, mais il n'a pas créé des robots. Il nous a créés à son image, avec une volonté. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a fait Adam, il a dit, voilà, je mets cet arbre dans le jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit. Adam, il avait cette liberté de prendre ou de ne pas prendre. Et Dieu, lorsqu'il nous sauve, il veut aussi que nous participions à cette œuvre de sanctification. Mais c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, laissons le Seigneur agir en nous, que la sanctification, cette œuvre de sanctification qui est au fait, c'est comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, il est le cep et nous les sarments, et que le vigneron, il doit émonder ce cep, il doit émonder les sarments pour pouvoir avoir beaucoup de fruits. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, enlever, arracher toutes les mauvaises choses, les mauvaises branches qui sont là et qui ne servent à rien, pour que nous puissions porter beaucoup de fruits. Et c'est ça la sanctification. Il y a un autre terme qu'on appelle, ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, parce que pour marcher selon l'Esprit, pour se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, le chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Donc que le Seigneur nous remplisse. Chaque jour nous devons prier pour ça, remplis-moi de ton Esprit pour qu'il puisse nous conduire et que nous nous laissions conduire par lui. Donc chaque croyant reçoit de Dieu cet ordre, soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque croyant reçoit cet ordre de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Et en nous de nous soumettre à la parole de Dieu, à nous soumettre au Saint-Esprit qui est en nous pour faire sa volonté. Alors, quelle est l'attitude du croyant pour qu'il y ait une œuvre efficace du Saint-Esprit en lui? Donc, pour marcher selon l'Esprit, l'une des choses qu'il faut faire, c'est déjà le confesser à Dieu nos péchés, confesser à Dieu nos passions, nos désirs charnels, dire à Dieu, reconnaître devant Dieu nos manquements et dire, Seigneur, je sais que ces choses ne te glorifient pas. Et je te prie de briser ces choses en moi et que je puisse avoir une vie qui t'honore. Il faut vraiment reconnaître, et il parle des œuvres de la chair, on va y revenir. Il faut reconnaître ces mauvais penchants. Il faut reconnaître notre nature charnelle qui est là et qui nous domine. Il faut le reconnaître et les confesser à Dieu et demander à Dieu de les briser et que nous puissions avoir une vie qui l'honore. Ceux qui sont à Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit au verset 24 et 25, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ, donc les chrétiens, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parfois on oublie cela aussi, mais c'est une réalité lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ. On a dit à Dieu, voilà, ma chair, ma vieille nature, tout ce qui a de mauvais en moi, tout ça a été crucifié ça a été crucifié et ça n'a plus de pouvoir sur moi. Mais parfois, on a tendance à enlever les clous. On a tendance à enlever les clous et puis laisser le vieil homme prendre le dessus. Mais il faut pas oublier que lorsqu'on devient chrétien, on a été crucifié avec Christ et on ne doit pas revenir et caresser ses clous, comme disait John Stott dans un livre. On ne doit pas caresser ses clous pour avoir un peu de nostalgie par rapport à cette vieille nature qui est là et qu'on voudrait laisser vivre. Non, ça a été crucifié et c'est mort. Et malheureusement, dans notre vie chrétienne, nous aimons garder ces penchants naturels, mais qui nous poussent à faire ce qui est mal et à croire que finalement, ces clous, c'est dommage qu'il y ait ces clous-là. On voudrait les enlever. Mais il dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, confessons nos péchés à Dieu. Abandonnons notre volonté à notre Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Et le texte de Romains 12, il dit « Offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, en tant que chrétien, on doit se livrer entièrement à Dieu. Dire « Seigneur, voilà, je m'offre à toi entièrement et que tu puisses te servir de moi. » Et se mettre ainsi à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il agisse en nous. Et aussi, l'autre chose qu'il faut pour que l'œuvre du Saint-Esprit soit efficace en nous, nous devons avoir la foi que oui, effectivement, nous avons l'Esprit de Dieu et qu'il est agissant en nous et qu'il va nous transformer petit à petit. Et garder les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce texte que nous avons lu, j'aimerais souligner trois résultats d'une marche selon l'Esprit. Lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, la première des choses que j'aimerais souligner, c'est que nous accomplissons ce que dit la loi. Dans les versets 13 à 15, je vais relire. « Frères, vous avez donc été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Il dit, toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie. Donc, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, nous accomplissons ce que dit la loi. Lorsque nous aimons notre prochain, nous accomplissons ce que dit la loi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir d'aimer Dieu, le pouvoir d'aimer notre prochain, le pouvoir d'aimer celui ou celle que Dieu a mise à côté de nous, d'aimer nos enfants, notre prochain. Et lorsque nous le faisons, nous accomplissons la loi. Alors, on ne cherche pas à pratiquer la loi par notre propre force, parce que ça c'est impossible, mais par l'action du Saint-Esprit qui nous aide à aimer notre prochain, nous faisons ce que dit la loi. Dans Matthieu chapitre 22, on a imposé au Seigneur Jésus-Christ qu'elle était le plus grand commandement de la loi. Et le Seigneur Jésus, il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, vous prenez les tables de la loi, les 10 commandements, vous les avez résumés dans cela. Donc, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on accomplit la loi. L'autre chose, c'est que nous avons la victoire sur la chair et sur le péché. Dans les versets 16 à 21, l'apôtre Paul dit vraiment qu'il y a donc cette opposition entre la chair et l'Esprit. Et donc, et l'Esprit nous donne la victoire, si nous nous soumettons et nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous avons la victoire sur la chair, la victoire sur notre vieille nature, cette nature pécheresse. Donc, là, l'apôtre Paul souligne qu'il y a une lutte intérieure entre la chair, donc la nature humaine corrompue, et l'Esprit de Dieu. Car la chair, il dit au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc là, il y a cette opposition entre les deux. Donc en nous, nous avons cette vieille nature que nous héritons de nos pères depuis Adam à cause du péché. Et nous recevons l'Esprit de Dieu. Et donc les deux sont là et nous devons laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus. C'est un peu comme Jean-Baptiste qui, par rapport à Jésus-Christ, il dit quoi ? Il faut qu'il croisse et que je diminue. On doit dire que cette vieille nature doit diminuer pour que le Saint-Esprit puisse croître. Laissez le Saint-Esprit prendre tout le contrôle de notre vie. Et malheureusement, nous laissons trop souvent cette vieille nature prendre le contrôle de notre vie. Nous laissons trop exprimer cette vieille nature qui est là. Et nous oublions que le Saint-Esprit qui est là nous fait des petits pics comme ça. Et ces petits pics nous suscitent en nous de la tristesse. Parce qu'on finalement on découvre qu'on n'aurait pas dû. Et c'est là que normalement si on est conduit par le Saint-Esprit, on est poussé à aller vers l'autre et dire « Je te demande pardon. Parce que je n'aurais pas dû dire cela. Je n'aurais pas dû faire cela. Je te demande pardon. » Mais lorsqu'on est entêté et puis on sait qu'on n'aurait pas dû, mais tant pis, je ne veux pas me rabaisser, non. Ben là, c'est la vieille nature qui est là, on gonfle le torse et puis on dit, voilà, mais c'est la vieille nature, on se laisse dominer par cette vieille nature-là. J'aimerais bien qu'on lise ensemble ce passage de Romains, chapitre 7. Alors, je vais lire Romains chapitre 7 à partir du verset 14, parce que dans ce passage, l'apôtre Paul exprime, je pense, ce que beaucoup nous expérimentons, nous vivons. Et c'est une longue lecture, mais ô combien nécessaire. Romains chapitre 7 à partir du verset 14. Alors, il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et il y a tous ces trois points de suspension. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, donc pour avoir la victoire sur le péché, gardons les yeux sur notre Seigneur Jésus. Ne nous appuyons pas sur nos propres forces, mais croyons que le Saint-Esprit va nous donner la force et la victoire sur le péché. L'autre chose aussi, c'est que nous manifestons le fruit de l'Esprit. Lorsque nous laissons marcher par, lorsque nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, lorsque nous marchons par l'Esprit, nous manifestons ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Donc, petit à petit, Dieu fait son œuvre en nous pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Et dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Dit les chrétiens, oui, c'est des petits Christ. On doit avoir Christ en nous. Et lorsque nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, ces qualités qui sont là mentionnées là se voient petit à petit en nous. Et là, c'est des sujets de prière, n'est-ce pas? Ô Seigneur, que je puisse aimer davantage, que donne-moi ta joie, Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi plus de patience, que j'use plus de bonté envers mon prochain, de bienveillance. Donne-moi la foi, ou le terme c'est la fidélité, que je sois quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui fait preuve de douceur, de maîtrise de soi. Voilà, ce sont des sujets de prière. Nous devons implorer le Seigneur que son esprit puisse agir en nous, nous transformer, que nous manifestons ces qualités qui étaient en Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous avons donc été appelés à la liberté. Mais cette liberté acquise au prix du sang versé de notre Seigneur Jésus à la croix ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Et surtout, c'est nullement un prétexte pour vivre selon la chair. Il souligne les œuvres de la chair. Et il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, il rappelle que si notre vie est caractérisée par ce genre de choses, cela témoigne que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Si, lorsque nous voyons cette liste des œuvres de la chair, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, etc. Et au fait, il faut prendre chaque terme et les détailler. Bon, ça, on peut le faire en étude biblique, tout comme le fruit de l'esprit aussi, et le prendre. Il y a vraiment des grands sujets, mais il dit que si votre vie est caractérisée par cela, si lorsque vous analysez votre vie, vous sentez, vous voyez que tiens, c'est comme si c'était votre prénom qui était là. Alors il dit, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu si c'est ça votre vie. si vous laissez conduire par la chair, si votre vie, c'est le moi qui a la première place, qui vous domine, cela est le signe palpable que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Et donc, humiliez-vous devant le Seigneur. Et là aussi, c'est un sujet des sujets de prière. Seigneur, voilà, je te demande pardon parce que voilà, c'est ce que je fais. Je te demande pardon. Et je veux mettre ma foi en Jésus-Christ, que tu puisses me transformer, Seigneur, et faire de moi un homme nouveau. Et lorsque vous priez comme ça, là, le Seigneur, il va vous donner son esprit. Il y aura des tentations, mais à chaque fois, vous n'allez pas vous laisser dominer par ces choses-là, et vous allez avoir la victoire dessus. Donc, c'est là, cette question, c'est est-ce que vous pouvez dire que oui, je suis membre du royaume de Dieu. Si votre vie est caractérisée par ces œuvres de la chair, et que ça, non. Humiliez-vous devant le Seigneur et dites-lui, oui, je reconnais que je suis un pécheur, parce que voilà ce que tu dis. Et que tu dis dans ta parole que je ne peux pas hériter le royaume de Dieu en faisant ces choses-là. Alors, humiliez-vous devant le Seigneur. Le fruit de l'Esprit, vous dites, oui, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Mais est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit, est-ce que tu laisses le Saint-Esprit œuvrer en toi? Alors, prie le Seigneur. Demande-lui de mettre en toi, parce que ces choses qui sont là, que cela puisse être visible, que tu puisses grandir dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu pour que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., puissent être visibles. Que les autres, ceux qui sont là avec nous, nos proches, nos enfants, puissent voir ces qualités en nous. Donc, je le disais au départ, c'est vraiment la clé de la vie chrétienne. Si on ne vit pas la vie chrétienne en ayant conscience de ces réalités, de cette double nature qui est là, de cette vieille nature qui est là, mais que nous ne devons pas laisser prendre le dessus, nous rappeler que cette vieille nature, nous l'avons clouée. Il est là, sur cette croix, et qu'il doit rester là. Nous ne devons pas lui redonner vie à cette vieille nature. Mais non, laissons le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné une nouvelle vie en Jésus-Christ, laissons-le œuvrer en nous. Que le Seigneur nous aide, que durant cette année encore, que ça soit vraiment une pensée que nous puissions garder, que mon Dieu, je puisse marcher selon l'Esprit. Et c'est cela qui va nous aider à demeurer fermes dans cette liberté que Christ nous a acquise. C'est ça qui va nous aider à continuer à rester debout dans cette vie chrétienne. Et quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de rester debout et de tenir ferme. Et sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas le faire. N'oublions pas que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc nous l'avons. N'oublions pas que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, de puissance et de sagesse. Donc nous avons tout ce qu'il faut. Donc laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous. Il n'y a pas une personne qui pourra dire, voilà, je suis arrivé. Non, pas du tout. Tous, nous avons besoin de grandir. Tous, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit œuvrer davantage en nous pour ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ.